L B D. La base décide. La base définit.
Salut, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Pour commencer cette émission, nous exprimons ici notre solidarité avec le camarade Eric qui a commencé une grève de la faim le 30 janvier pour la régularisation de Madama, un jeune Malien arrivé en France il y a 2 ans. On espère que lorsque ce podcast sera diffusé, Madama aura été régularisée. Cette semaine, on va parler du 8 mars, la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Alors le 8 mars, d'où ça vient ? On oublie souvent l'origine socialiste, révolutionnaire, internationaliste et féministe de cette journée. En 1910, à la conférence des femmes socialistes de Copenhague, Clara Zetkin, une militante allemande, propose une motion soulignant la nécessité d'une journée internationale des femmes, motion qui est alors votée à l'unanimité. Les objectifs de cette journée de lutte sont l'obtention du droit de vote, du droit de travailler librement et le combat contre les violences sexistes au travail. Plus généralement, les revendications portent sur l'égalité économique, juridique et politique des femmes. Un deuxième temps fort se déroule en 1917 en Russie. Face à la guerre et à la famine, le 23 février, qui correspond au 8 mars de notre calendrier grégorien, des ouvrières en grève manifestent pour leurs droits, pour des conditions de travail et des conditions de vie décentes. Les ouvriers des industries leur emboîtent le pas, les grèves se généralisent, c'est la révolution. C'est ainsi que le 8 mars est choisi par les partis communistes comme journée de mobilisation des femmes et que cette date est restée jusqu'à aujourd'hui. Au sommaire de ce deuxième numéro, Rumana, une camarade AESH, militante chez Sud Éducation, sera là pour nous parler de son métier exercé à 93% par des femmes mais soumis à de nombreux stéréotypes de genre. Ensuite, nous recevrons Camille, Lucie et Sabine, 3 militantes de Sud Éducation, venues nous parler des violences sexistes et sexuelles au travail à l'éducation nationale, féminisées à 73%, et également faire un rappel des textes de loi. Mais la lutte contre le sexisme est aussi un enjeu pédagogique, et des actions sont menées partout en France par des collègues pour amener les élèves à prendre conscience des inégalités et à combattre les stéréotypes de genre. Parole de fille est l'un de ces dispositifs. Il nous est présenté par 2 professeurs documentalistes dans le cadre d'un stage syndical dédié à l'antisexisme et organisé par Sud Éducation. Enfin, Guillermo Wolf, syndicaliste à l'Union syndicale solidaire de Maine-et-Loire, viendra nous parler de son travail de recherche dont il a tiré le livre « Des brebis noires créent les syndicats sud ». Et si vous voulez chez vous approfondir les sujets abordés dans ce podcast, on est allé à la rencontre d'une libraire engagée pour qu'elle nous donne quelques conseils de lecture. Bonne écoute!
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce sujet de LBD, le podcast de Sud Éducation consacré au 8 mars, on va parler des AESH. Je serai avec Rumana, AESH dans le 95 et syndiquée à Sud Éducation. Bonjour Rumana.
Bonjour Maud, je suis Rumana, donc je suis AESH depuis 9 ans, au collège Chantraine à Sarcelles et j'accompagne un dispositif Ulysse.
Alors, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'AESH qui sont syndiqués à Sud Éducation, qui écrivent du matériel. Il y a un journal qui va sortir bientôt, que je vous engage à aller voir sur le site de Sud Éducation. On a beaucoup d'AESH qui participent à des collectifs de lutte en ce moment contre les PIAL, c'est-à-dire la mutualisation des moyens de AESH, et pour obtenir un vrai statut. Mais nous, à l'occasion de cette émission, nous voulions parler des AESH sous un angle un peu particulier, c'est celui de la féminisation de la profession. Avant de parler de ça, est-ce que, Rumana, tu pourrais nous décrire le travail d'une AESH pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce métier ?
Oui, alors l'AESH est chargée d'accompagner les enfants en situation de handicap qui ont une notification NDPH, donc qui ont besoin d'avoir un accompagnant au quotidien durant leur scolarité. Donc moi, ma tâche principale, c'est de les aider à écrire, enfin à la lecture, à l'écriture, à la reformulation, à trouver des solutions pour contourner un problème, pour leur expliquer en plus simple, en simplifié. Je les accompagne aussi dans la vie du quotidien, c'est-à-dire dans les aides, par exemple, pour les accompagner dans une salle, quand ils sont perdus dans les couloirs.
Vous avez une formation pour ça ?
Alors, je n'ai pas eu réellement de formation. Je suis rentrée, moi, après un congé parental. On m'a proposé juste 60 heures de formation, donc vraiment pas de la pratique que de la théorie. Donc en gros, quand j'étais sur le terrain, enfin, j'étais déjà sur le terrain quand la formation, on me l'avait proposée, mais j'avais déjà pris mes marques. Donc on est un peu obligé, on est seul face à la situation et on s'adapte. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. La formation arrive après et souvent, enfin, pour ma part, elle ne m'a pas servi à grand-chose.
Je reviens sur ce que tu as dit, que tu es arrivée au métier d'AESH après un congé parental. Il y a un chiffre qui est sorti, que nous on diffuse beaucoup à Sud Éducation, c'est le chiffre de 9 AESH sur 10 sont des femmes.
Alors, dans mon entourage, c'est vrai que beaucoup d'AESH sont des femmes. Hein, on va dire 90% des AESH sont des femmes.
C'est intéressant parce que dans ce que tu as présenté dans les missions que tu exerces au quotidien, on retrouve des missions, des tâches qui ne sont pas celles de mère ou de femme, mais vraiment de spécialiste du handicap. Toi, est-ce que tu as l'impression d'être reconnue dans l'éducation nationale comme une spécialiste du handicap ?
Alors malheureusement, j'ai pas l'impression d'être reconnue. Déjà au sein de mon établissement, il a fallu un peu de temps pour qu'on sache qui je suis. Les enseignants ne savaient pas trop pour quelles raisons j'étais là. Avec le temps, ils ont quand même appris et moi, j'ai su aussi m'imposer au sein de l'établissement et à revendiquer que j'étais nécessaire au sein du dispositif pour accompagner ces enfants.
Qu'est-ce qui manquerait, à ton avis, pour que vous soyez vraiment reconnus, les AESH, pour vos compétences professionnelles comme des personnels nécessaires à l'inclusion scolaire ?
Alors jusqu'à aujourd'hui, ce que je reproche énormément, c'est le salaire. Nous ne sommes pas du tout reconnus. Moi, en étant AESH collective, j'étais à 33 heures, je suis passée à 30 heures, mais ça reste quand même un salaire très très bas. Je touche 900 et des brouettes par mois net. Ça reste encore très très bas. On est vraiment en dessous du seuil. Pour le coup, on a besoin d'être reconnu. Notre métier a sincèrement besoin d'être reconnu. Au niveau des formations, pareil, on a besoin de plus de formations. Beaucoup d'AESH qui arrivent sur le terrain là récemment, ben, elles ne savent pas ou ils ne savent pas comment procéder. Ils exécutent ce qu'on leur demande de faire. Et en règle générale aussi, les enseignants demandent de faire tout et n'importe quoi malheureusement. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas.
Pour le coup, à Sud Éducation, les camarades AESH ont construit une revendication, celle d'éducateur ou d'éducatrice scolaire spécialisée, avec un vrai statut intégré dans la fonction publique, parce qu'aujourd'hui, les AESH, même en CDI, sont sous contrat, donc ne sont pas titulaires d'un poste dans la fonction publique. Cette revendication, elle changerait donc beaucoup de choses dans le quotidien parce que ça veut dire un temps plein, un salaire à temps plein. Pour nous, c'est quelque chose d'intéressant. Ça fait partie des revendications qui sont portées par les collègues quand ils parlent de reconnaissance. Mais on a pu voir des mobilisations l'année dernière, cette année qui continue, des mobilisations contre la mutualisation des moyens d'accompagnement et contre les PIAL. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot des raisons pour lesquelles les AESH sont opposés à la mise en place des PIAL ?
Alors les AESH et moi-même, d'ailleurs, je suis très très remontée contre la création de ces PIAL qui sont d'abord, notre PIAL à nous est arrivé cette année, dans le 95. Donc la mutualisation, c'est hyper compliqué, sachant que ils prennent les AESH pour combler des trous, c'est-à-dire que quand il y a un établissement, il manque une ou un AESH dans un établissement, ben, ils vont prendre l'AESH de l'établissement A pour le mettre dans l'établissement B, sachant que celui qui était l'enfant qui est sur l'établissement A, c'est hyper compliqué de l'aider aussi puisqu'il perd des heures. Les AESH sont censés se déplacer d'un établissement à un autre sans forcément avoir les moyens.
Oui, donc on comprend bien avec ce que tu nous expliques pourquoi les AESH sont autant mobilisés contre la mise en place des PIAL. C'est vraiment une grosse dégradation de leurs conditions de travail pour le coup. Ça veut quand même dire un temps de travail incomplet avec un salaire incomplet, d'où une grande précarité. Alors vous portez une revendication, je crois, sur le temps de travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Oumana ?
Oui, alors nous, les AESH, on porte la revendication sur le temps de travail qui est actuellement un temps plein, un temps incomplet qui est à 30 heures, mais qui a un salaire très très bas, 900 euros et quelque chose, et à 24 heures qui est de 780 euros. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que le temps complet soit de 24 heures avec un salaire adéquat, un vrai salaire. Voilà.
Et donc, les 24 heures devant élèves, Ça vous permettrait d'être sur un temps plein avec l'idée que toutes les tâches dont tu parlais, je pense au début, quand tu parlais de la formation, vous faites beaucoup d'auto-formation, j'imagine, vu le manque de formation fournie par l'institution, tout le travail de concertation, il serait compris dans votre temps de travail, un peu comme chez les enseignants et les enseignantes qui ont des maxima hebdomadaires de 24 heures devant élèves ou 18 heures pour les certifier, mais où il y a une prise en compte de toutes ces tâches-là, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on aimerait, ça serait donc 24 heures face élève avec les concertations, les ESS, etc. Ce qui nous ferait un temps complet, un peu comme les enseignants. Donc, on aimerait bien être considérés quand même mieux que ce qu'on est aujourd'hui.
C'est vrai que gagner un vrai statut avec un salaire à complet, un temps plein pour les AESH, ça permettrait quand même à énormément de femmes, 100 000 femmes, de sortir de la précarité et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est beaucoup plus clair grâce à tout ce que tu nous as dit, Roumana, aujourd'hui. Je t'en remercie. Et puis, on espère que les luttes des AESH seront victorieuses, qu'elles continueront à se mobiliser, parce que là, il faut gagner, hein, c'est sûr.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de Sud Éducation où vous trouverez le guide des AESH, les analyses, des fiches pratiques et toutes les infos quant aux mobilisations des AESH. Impossible de parler du 8 mars sans aborder la question des violences sexistes et sexuelles dans la société, mais aussi au travail. En tant que syndicat, nous avons un rôle à jouer dans la dénonciation et la lutte contre les violences faites aux femmes. Macron nous affirme que l'égalité homme-femme est la grande cause de son quinquennat. Or, sur le terrain, on fait le constat d'un manque de volonté politique de l'administration pour lutter contre les inégalités.
Bruno et moi recevons aujourd'hui deux militantes de Sud qui viennent nous parler des violences sexistes et sexuelles dans le milieu professionnel. Bonjour à toutes les deux, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Salut, je suis Lucie, je milite à Sud Éducation 28 et je suis professeure documentaliste.
Bonjour, je suis Camille, je suis à Sud Éducation Gare Lozère et je suis professeure de français.
Merci à toutes les deux d'être venues. Alors la première chose que j'aimerais vous demander, c'est qu'appelle-t-on en réalité les violences sexistes et sexuelles au travail ? Qu'est-ce que ça recoupe ?
Les violences sexistes et sexuelles au travail, elles peuvent être de différents ordres, en fait, comme dans l'ensemble de la société. Le milieu du travail n'est pas isolé du reste de la société. Et donc, en fait, on peut voir qu'il y a une sorte de pyramide d'escalade dans le type de violence qu'on peut voir au travail. Donc, avec des agissements sexistes qui sont interdits par le Code du travail. Ça peut être des blagues entre guillemets. En fait, ce sont des propos injurieux, discriminatoires, insultants. Voilà, des réflexions dégradantes. Ça peut aussi prendre la forme de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, voire de viol, de crime.
Merci Lucie pour cette présentation. Une question en complément par rapport à ce que tu viens d'exposer. Est-ce bien ça qu'on appelle le continuum de la violence ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, par exemple, là-dessus ?
Oui, c'est ce qu'on peut appeler le continuum de la violence. Alors, il y a un certain nombre de féministes qui l'ont bien mis en évidence. C'est-à-dire que, en fait, va y avoir à la base de cette pyramide les actes les plus communs qu'on va banaliser. Donc ça va être, ce que je disais tout à l'heure, les remarques sexistes, ce que les gens présentent parfois comme des blagues alors que ça n'en sont pas, c'est insultant. Et puis qui va permettre, en fait, ça va créer un environnement qui va permettre du harcèlement, donc du harcèlement sexiste, voire du harcèlement sexuel. Des agressions. Donc, dans le droit français, les agressions sexuelles, elles sont définies comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Tout en haut de cette pyramide, il y a les crimes. Donc, le viol, dans le droit français, le viol est considéré comme un crime.
Si une collègue vient nous voir dans une de nos permanences et qu'elle nous confie que sur son lieu de travail, elle subit des choses qui relèvent du harcèlement sexiste ou sexuel, quelles sont les premières choses à faire ? Et en tant qu'organisation syndicale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner au mieux la personne qui vient nous solliciter ?
Alors, ce qui est très important, c'est de créer tout d'abord un espace d'écoute pour la personne qui vient nous voir, qui vient se confier à nous, que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre établissement ou au local syndical. Il est nécessaire d'attendre le bon moment et de trouver le lieu adéquat, c'est-à-dire pour créer un espace sécurisé et où la personne se sente en confiance et donc où il y a une certaine forme de confidentialité aussi. Il est très important, quand on écoute ce qu'elle a à nous dire, de noter les différents éléments pour ensuite pouvoir avoir une chronologie des différents événements qui se sont produits. Il est très important aussi d'inverser les mécanismes de la violence, c'est-à-dire de commencer par préciser à la victime qu'on la croit, bien évidemment, valoriser le fait qu'elle a eu le courage de venir en parler à quelqu'un, la déculpabiliser, bien lui rappeler qu'elle n'y est pour rien, qu'elle n'a rien fait, que c'est l'agresseur qui est fautif, bien entendu. Il est important aussi de lui rappeler la loi, de lui indiquer quelles sont les démarches légales possibles. Mais nous, notre travail, ça va être surtout de proposer une aide au niveau syndical. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas médecins non plus. Donc on peut l'orienter vers des associations, par exemple la VFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Et donc ne pas hésiter à lui conseiller d'aller consulter son médecin, d'aller rencontrer un psychologue pour parler de ce qui lui est arrivé. Nous, notre accompagnement syndical, il va surtout consister à conseiller la victime sur les démarches administratives qui sont possibles au sein de l'éducation nationale. Dans tous les cas, c'est à la personne qui vient nous voir de décider par elle-même ce qu'elle veut faire pour elle-même. Ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire. Nous, on lui présente les options qui s'offrent à elle et c'est elle qui décide.
D'accord, donc attendre que la personne et la victime se sentent prêtes pour entreprendre ensuite une série de démarches. Est-ce que vous pouvez nous présenter les démarches justement qui peuvent s'opérer, être mises en place à l'intérieur de l'établissement ou à l'intérieur de l'école?
Oui, alors je voudrais d'abord préciser qu'en fait, il y a une démarche donc, syndicale administrative, un parcours administratif, et puis il y a des démarches qui peuvent être judiciaires, etc. En tout cas, ce sont des démarches qui peuvent être effectuées en parallèle, mais qui ne sont pas... par exemple, en fait, je dis ça parce que dans l'éducation nationale, la hiérarchie fait souvent croire qu'il y a besoin de démarches judiciaires pour qu'elle agisse. C'est faux. En fait, les démarches administratives peuvent se suffire à elles-mêmes. Dans les démarches administratives, ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, le représentant de l'État, donc c'est-à-dire le chef d'établissement ou la chef d'établissement dans le second degré et l'IEN dans le premier degré, ils sont tenus d'assurer la sécurité des personnes. C'est une obligation. Ils ont l'obligation de protection des personnels. Donc, pour être protégé, ce qu'on va nous conseiller, c'est de signaler les dangers. Donc, en remplissant le registre santé et sécurité au travail ou le registre danger grave et imminent. Donc, ça va permettre d'alerter le comité hygiène, santé et sécurité. Ça peut être de demander une protection fonctionnelle. Enfin, en tout cas, il n'y a pas... un seul chemin à suivre, voilà, ça dépend de la situation, de ce que veut la collègue. Voilà, on part d'une situation donnée, mais en tout cas, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Ce qu'il faut noter, c'est que la hiérarchie, très souvent, elle va minimiser les faits et elle va laisser traîner les affaires, voire les mettre sur le tapis. Camille en parlait tout à l'heure, d'établir un récit factuel. C'est vraiment une pierre angulaire dans l'accompagnement, parce que ça va être aussi là-dessus, notamment, qu'on va pouvoir... Enfin, c'est ce qu'on va utiliser pour maintenir un rapport de force.
Diriez-vous que l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles au travail dans l'éducation nationale, elle est au point où on est en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire pour traiter les situations dans l'intérêt des personnels qui les subissent?
Alors, on est largement en retard. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que l'éducation nationale n'applique pas une circulaire existante, la circulaire du 9 mars 2018. Donc, c'est une circulaire qui est en vigueur. Donc, elle prévoit, en fait, dans toutes les écoles et dans tous les établissements, des dispositifs d'information. On est loin d'être à de l'info dans chaque école et chaque bahut. Elle prévoit la formation initiale et continue des collègues, bon c'est pareil, et elle prévoit la prise en charge des signalements de violence, notamment par la mise en place de cellules dans chaque académie, des dispositifs en fait de signalement et de traitement de ces violences. Voilà, on est en 2021 et il y en a 4 sur tout le territoire. Donc autant dire que c'est vraiment très peu, d'autant que, bon, c'est pas uniquement dans l'éducation nationale, mais ce qu'on peut, les chiffres du Défenseur des droits font état de 20% de femmes qui estiment être confrontées à du harcèlement sexuel au travail. L'éducation nationale se voit de la face en disant, elle, dans le bilan social qui vient de sortir en décembre dernier, que seulement 0,2% des personnels sont victimes de ce genre de violence.
Oui, ces chiffres sont vraiment édifiants quand on les met en perspective par rapport à ce que vous devez, vous, entendre dans vos accompagnements syndicaux. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et surtout, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est victime de violences sexistes ou sexuelles au travail ou que vous-même êtes victime de cela, n'hésitez pas à contacter votre cellule syndicale locale ou d'appeler un syndicat pour être accompagné au mieux.
Afin d'approfondir le versant juridique de cette question des violences sexistes et sexuelles au travail, nous recevons Sabine.
Bonjour. Alors, dans cette rubrique droit aujourd'hui, nous allons aborder la question du harcèlement sexuel avec Sabine, chargée des questions juridiques à Sud Éducation, qui va nous éclairer sur ce qu'est le harcèlement sexuel. Bonjour Sabine. Tout d'abord, peux-tu nous dire d'un point de vue juridique ce que l'on doit comprendre par harcèlement sexuel ?
C'est un délit pénal. Concrètement, la loi caractérise le harcèlement sexuel par le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Ça, ce sont les propos de la loi. Et puis, il y a une autre partie de la loi qui dit que est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte sexuel au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. Les propos et les comportements sexistes recouvrent également les propos et les comportements homophobes ou obscènes. Voilà. Donc à cette définition du harcèlement sexuel s'ajoute celle du harcèlement sexuel au travail qui est définie par le Code du travail et qui reprend la définition que j'ai citée précédemment et qui la précède de « aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ». Même s'il n'y a aucune relation hiérarchique entre la victime ou l'auteur des faits, il y a harcèlement sexuel et la relation hiérarchique est une circonstance aggravante dans les cas de harcèlement sexuel. Il faut préciser que les peines encourues pour des faits de harcèlement sexuel sont de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et que ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en présence de circonstances aggravantes.
Très bien, merci Sabine. Pourrais-tu nous en dire un peu plus et nous donner des exemples qui permettraient de comprendre et d'illustrer ce que peuvent être des faits de harcèlement sexuel qui se dérouleraient sur le lieu de travail, par exemple ?
Alors, comme l'indique la loi, on est sur des faits ou des actes ou des propos qui sont de deux ordres. Alors déjà, il y a les propos, les plaisanteries, les blagues, les compliments, les critiques sur la tenue vestimentaire, sur le physique, les questions intrusives aussi, le dénigrement du conjoint ou de la conjointe, la volonté de créer une intimité inadaptée. Donc tout ça constitue des exemples de harcèlement sexuel. Il y a aussi des agissements qui peuvent être connotés sexuellement, qui ne sont pas directement sexuelle, comme des propositions récurrentes d'aller au restaurant, au cinéma, de partir en week-end. Dans certains cas, c'est constitutif de harcèlement sexuel. Il y a aussi les signes non-verbaux. Les attitudes qui peuvent être explicites, dévisager ou détailler avec insistance le physique d'une personne, siffler, avoir une gestuelle à connotation sexuelle, imposer continuellement sa présence, rechercher une proximité physique. Tout ça aussi est constitutif du harcèlement sexuel et de signes de harcèlement. Et puis ensuite, là, il y a la deuxième partie. C'est de proposer une promotion ou des projets, par exemple dans le cadre professionnel, et donc de demander une relation sexuelle en échange de cela.
Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples peut-être de ce qu'on qualifie de harcèlement d'ambiance ? Qu'est-ce que ça peut être ce harcèlement d'ambiance dont on a parfois entendu parler ?
Alors, le harcèlement d'ambiance, ce sont des propos qui sont pas directement adressés à une personne en particulier, mais qui font que là où les personnes se sentent visées et donc sont mal à l'aise dans cette ambiance qu'on dit de harcèlement environnemental. Voilà. Donc, c'est d'entendre à longueur de journée des blagues obscènes ou vulgaires qui deviennent insupportables aux conditions de travail de la victime. Et ça, donc, il y a eu un jugement de la Cour d'appel d'Orléans qui a sanctionné, dans une décision du 7 février 2017, et qualifié ce harcèlement environnemental.
Tout ce que tu viens de nous expliquer nous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut caractériser, mettre des mots sur une situation qui est vécue. Donc tu as listé un certain nombre de procédures qui peuvent être faites en interne. Quelles sont les voies qui peuvent être possibles, donc d'un point de vue administratif, pour des personnels qui subiraient des agissements de harcèlement sexuel notamment ?
Alors, les voies possibles, c'est la voie pénale, donc la plainte, qui se fait donc au commissariat et qui, il faut le préciser, ne peut pas être refusée. On ne peut pas refuser à une victime de harcèlement sexuel de déposer une plainte. Donc ça, c'est il y a la voie pénale. Et puis, il y a la voie administrative. Et donc, des procédures qui peuvent être engagées au niveau du tribunal administratif et en particulier, en premier lieu, une procédure en référé liberté, parce que c'est une liberté fondamentale de ne pas être harcelée au travail. Il faut également noter qu'une procédure pénale ne se substitue pas à une procédure administrative. C'est extrêmement important. Et que même s'il n'y a pas eu de plainte au pénal, l'administration, dès qu'elle a été alertée sur la situation, doit prendre des décisions, des mesures, notamment des mesures conservatoires concernant la victime, mais également concernant l'agresseur présumé.
D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de l'agresseur présumé qui serait un fonctionnaire, que risque-t-il d'un point de vue de son employeur en termes de sanctions notamment ?
Il y a toute la graduation des différentes sanctions possibles dans la fonction publique, mais ça peut aller jusqu'à la radiation. Entre-temps, avant qu'il y ait des mesures disciplinaires, il peut avoir des mesures conservatoires telles que la suspension, la mutation dans l'intérêt du service. Et ça, c'est pour protéger la victime. Et c'est quand même une chose que les employeurs rechignent à faire dans ce cadre-là.
Très bien, merci Sabine pour cet échange particulièrement éclairant concernant le harcèlement sexuel et l'outillage juridique et administratif à disposition des personnels pour lutter contre ce genre de pratiques. Merci beaucoup.
Merci.
Changer l'école et changer la société vont de pair. Il y a une véritable pression du ministre Blanquer pour imposer une vision réactionnaire de la pédagogie face à des collègues qui pratiquent des pédagogies coopératives. Hélène, prof des écoles à Bobigny, est menacée d'une mutation forcée. L'administration lui reproche son engagement syndical et son engagement en pédagogie freinée. N'hésitez pas à aller signer la pétition en soutien à Hélène sur le site de Sud Éducation. Continuons à faire vivre nos alternatives pédagogiques avec des camarades qui développent des outils pour favoriser la parole et l'émancipation des filles. Nous sommes allés laisser traîner notre micro au stage antisexisme de Sud où nous avons posé des questions à Anna et à Lucie.
Alors, on avait décidé de créer un espace non mixte avec les élèves pour discuter du sexisme dans leur quotidien, de tout ce qui pourrait toucher en fait aux questions féministes sans forcément l'appeler club féministe. Donc c'était quand même cette taxe, je crois, qui nous intéressait. On avait décidé de le faire sur le temps du midi, comme tous les autres clubs de l'établissement, et de faire deux groupes de niveau, les 6e, 5e ensemble et les 4e, 3e de l'autre.
En 6e, 5e, elles étaient beaucoup plus souvent amenées à parler des injustices sexistes qu'elles pouvaient subir dans la cour, dans leur famille, expliquer que, par exemple, les garçons ne voulaient pas forcément jouer au foot avec elles, que leur mère leur disait plus de faire la vaisselle qu'à leurs frères, des choses comme ça. Et en 4e, 3e, même s'il y avait encore ça, il y avait aussi beaucoup plus de questions liées à la vie affective et aux sexualités, quoi.
On pouvait reprendre une discussion de la semaine passée. On avait quand même un cahier, je pense, où on prenait des notes. Et elles, quand même, assez souvent, elles arrivaient avec des envies. Soit j'ai vu tel film, j'ai lu tel bouquin, il s'est passé ça, ça m'interroge. Soit dans ma vie, il s'est passé ça, ça m'interroge. Et on rebondissait. C'était assez rare, je trouve, qu'on doive nous proposer quelque chose.
C'est arrivé. Elles avaient de la matière, quoi.
Ouais.
On avait aussi développé un fonds documentaire au CDI avec des livres sur les règles, par exemple. On peut dire qu'il y a eu c'est sorti un peu du CDI quand une collègue professeure principale a vu en quatrième dans sa classe que les groupes, enfin il y avait deux groupes, d'un côté les filles, de l'autre les garçons qui s'entendaient pas bien du tout. Elle nous a sollicité pour organiser une réunion juste pour les filles dans sa vie de classe.
On avait mis beaucoup d'affiches aussi pour rendre visible le club et c'est vrai que ça a interrogé beaucoup les garçons. Et en fait, on l'avait fait aussi apparaître sur le planning du CDI, sur la porte. C'est fermé. Et quand ils frappaient, ils ouvraient quand même, on leur disait « Non, c'est parole de fille, tu ne peux pas rentrer. » Et ça, ça les frustrait énormément. Mais je pense que ça a permis aussi de populariser, rendre connu le club, quoi.
Oui, et puis il y avait même des interactions trop marrantes à la porte du CDI avec certains élèves qui disaient « Ah, oh, mais pourquoi c'est que pour les filles ? Pourquoi nous, on n'a pas ça ?» Et des filles, des élèves qui leur répondaient « Mais c'est parce qu'on a besoin de parler entre nous. » Et les garçons qui disaient « Mais nous aussi. » Et les filles qui disaient « Mais en fait, vous parlez tout le temps. » Donc nous, on a besoin de ce moment-là.
Et toi, t'as pensé le remettre en place dans ton nouveau bahut ?
Oui, j'y ai pensé. Mais comme je connais beaucoup moins bien les élèves pour l'instant, et qu'en plus, c'est des lycéennes... leur objectif, c'est le bac.
Ouais, ouais.
Donc, en gros, parole de fille, bon.
Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'il y en aurait trois et ça serait pas mal.
Ouais, peut-être. Mmh. Et toi, t'y as pensé ?
Je l'ai, à l'instant. Ouais, je vais essayer.
Ma question tout à l'heure, c'était... maintenant, tout ça, on a à peu près, bien balisé. Juste là où on avait des doutes, donc c'était... Est-ce qu'il fallait faire deux groupes d'âges différents ? Donc ça, tu m'as répondu que oui, c'était beaucoup mieux. Et surtout, maintenant, ce sur quoi on s'interrogeait aussi, c'était notre place à nous en tant qu'adultes et profs, ne serait-ce que dans le géographiquement. Enfin, est-ce qu'on se met autour d'une... On se met en cercle avec elles et on participe à toute la discussion ? Ou est-ce qu'on les met en cercle et puis nous, on fait autre chose à côté, j'en sais rien ? Qu'est-ce qui est le mieux d'après vous ?
On était en cercle avec elles. Je ne sais pas si ça aurait... Sans dire qu'on est indispensable, je ne sais pas si ça aurait bien fonctionné si on n'était pas là quand même. Peut-être sur plusieurs années de fonctionnement, ou tu vois, quand le truc est bien installé, peut-être.
D'ailleurs, c'est ce qu'elles avaient dit, les troisièmes qui partaient au lycée. Elles avaient dit « Ah, c'est triste, on n'aura plus parole de filles ». Et du coup, en discutant, on avait dit, maintenant que vous savez comment ça marche, vous pouvez le faire. Et elle s'était dit, trop bien, on le fera le midi et tout ça.
Vous aviez un tour de parole, c'était une d'elles qui prenait
oui,
un tour de parole.
Oui. Ah, donc ouais, c'est une élève qui notait les prises de parole.
Mais elle notait nous aussi.
Ouais. Oui. Quand tu voulais parler, tu lèves la main et c'est pareil. Okay. Et nous, on hésite, nous on est parti sur être deux. en même temps, parce que justement on se disait bon bah s'il y en a une qui a besoin d'être de venir à l'écart pour parler, voilà, est-ce que ça arrivait ça
ou... Nous ça nous est jamais arrivé. Et vu que c'était des très petits groupes, moi j'aurais eu peur que ça fasse beaucoup d'adultes.
Ouais, c'est ça que je me dis. De toute façon, je pense que ça peut changer. Ouais. Nous, on a changé plein de fois les modalités en cours et ça les a pas du tout gênés. Hein. Enfin, ouais. Au contraire,
trouver ça. Si tu vois que ça passe, plutôt bien, tu leur proposes de choisir un thème pour la fois d'après elles-mêmes.
Et maintenant, un autre exemple de pratique de classe avec ces lycéennes qui nous parlent de stéréotypes de genre et d'antisexisme.
Entrez.
Au niveau du sport, parfois les filles sont soi-disant nulles au foot ou au basket, alors que c'est parfois faux. C'est plus des affirmations qui sont pas fondées sur des. J'ai perdu le mot.
Tu veux recommencer ta phrase ?
Oh non. Ouais. Je trouve ça pas normal que quand un garçon joue avec des Barbies soit considéré comme efféminé et que quand une fille joue avec des petites voitures ou un ballon soit considéré comme brutal ou garçon manqué.
Le traitement des enfants est différent selon leur genre. Et je m'en rappelle quand j'étais petite, il y avait mon ami qui jouait souvent avec des poupées. Et ses parents, ils l'ont dit d'arrêter de jouer avec moi, avec les poupées, vu qu'il était garçon.
Il y a des activités qu'on dit qu'elles sont plus pour les filles que pour les garçons, et d'autres plus pour les garçons que pour les filles. Et c'est pas forcément juste, parce que, par exemple, un garçon qui aime faire du maquillage ou la danse, certaines personnes vont dire il est forcément gay, alors que c'est pas forcément juste, et pareil pour les filles.
Et par exemple au lycée, en été quand il fait chaud, certains professeurs n'acceptent pas des filles en débardeur parce que le décolleté est trop profond, alors que les garçons vont pouvoir mettre ce qu'ils veulent.
Une fille quand elle s'habille en survêtement, elle est pas féminine, mais quand elle s'habille en jupe ou... avec un petit décolleté, elle s'expose trop. Alors, il n'y a pas vraiment de juste milieu.
C'est dommage que dans le métro ou dans les transports en commun, les hommes mettent... Pardon. Je trouve ça dommage que dans les transports en commun, les hommes ils prennent plus de place dans le métro avec leurs jambes. Et les femmes, elles sont obligées de se mettre en...
Je connais pas le mot.
Les jambes croisées.
Exactement,
je trouve ça bien qu'il y ait des femmes, enfin des gens qui défendent les femmes dans les endroits publics, mais faudrait qu'il y en ait plus.
On a toujours l'image que l'homme est il est hyper fort, alors que la femme c'est une personne qui est plus fragile, qu'il faut protéger tout le temps, alors que on peut se protéger nous-mêmes et on n'est pas forcément plus faible que les hommes, on est au même pied d'égal.
Je comprends pas pourquoi on peut jamais marcher en étant en sécurité dans la rue alors que les hommes, ils s'en foutent.
Aussi, les différences d'emploi, les femmes seront plus au secrétariat ou dans la communication et les hommes plus PDG ou à la tête d'une entreprise.
Par exemple, une femme qui veut être sportif haut niveau ou un homme qui veut être sage-femme ou nourrice, ils vont être jugés alors qu'il n'y a pas de quoi parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et d'avoir l'avenir qu'ils ont envie d'avoir.
Je comprends pas pourquoi dans certains métiers, par exemple, lorsqu'un homme va échouer dans la tâche, ce sera qu'il n'avait pas les compétences ou qu'il était nul. Alors que quand une femme échoue, c'est juste qu'elle était une femme.
Je trouve ça pas normal qu'il y ait certains employeurs qui vont poser la question quand ils ont dans leur bureau des femmes... qui cherchent un emploi, qui vont leur poser des questions sur est-ce qu'elles veulent avoir une grossesse, est-ce qu'elles comptent, est-ce qu'elles ont des enfants en bas âge. Enfin, ça ne devrait pas être un critère de sélection pour un emploi, en fait, le fait d'avoir des enfants ou de vouloir en avoir ou pas, quoi.
Je comprends pas pourquoi les roses est encore associé aux filles et le bleu aux garçons.
Je trouve pas ça normal qu'une femme passe en moyenne une heure de plus que les hommes à faire des tâches domestiques.
Donc ce que je comprends pas, c'est que bah, par exemple, un homme qui se sortira avec une femme un peu plus jeune sera pas forcément mal vu, alors qu'une femme qui sera avec quelqu'un de plus jeune, elle sera vue comme une cougar ou voilà.
Un peu d'histoire à présent. L'histoire de Sud Éducation, celle de Solidaire, c'est une histoire des luttes, mais aussi une histoire des femmes qui se mobilisent. Nous recevons Guillermo Wolf, venu nous parler de son livre.
Bonjour à toutes et à tous. On accueille aujourd'hui dans le podcast de Sud Éducation Guillermo Wolf, qui a écrit un livre aux éditions Sileps, sorti en 2020, collection Les Utopiques, Les brebis noires créent les syndicats Sud. Bonjour Guillermo.
Bonjour.
On va parler du livre donc, que tu as écrit, avec un titre un peu énigmatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces brebis noires ?
Alors, les brebis noires, c'est un clin d'œil à l'histoire de la CFDT, d'où proviennent la plupart des militantes et des militants qui ont créé les syndicats Sud. Et dans les années 80, la direction de la CFDT, en plein recentrage, décide de cataloguer un peu une partie de son opposition comme étant des moutons noirs. Et donc, moi, mon idée, c'était de m'intéresser à ces moutons noirs et dans ces moutons noirs, bah, de s'intéresser aux femmes. Et donc, de fait, le petit clin d'œil à dire des brebis noires.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi tu as choisi ce sujet-là?
Alors en fait, ça vient de deux idées dans mon parcours. D'une part, l'engagement syndical. Quand je suis arrivé à l'université en 2005-2006, je me suis très vite syndiqué à Sud Étudiant, qui aujourd'hui s'appelle Solidaire Étudiant et Étudiante. Et par le biais de cet engagement-là, par le biais de rencontres aussi, je commence à m'intéresser aux questions de féminisme, d'égalité femmes-hommes, etc. Et ça m'a amené, dans mon travail universitaire, à m'intéresser à ces questions-là d'histoire du syndicalisme et du féminisme, des croisements entre les deux. Le fait aussi d'avoir dans mon université Christine Barr, qui est une historienne des féminismes assez réputée et assez très, très présente sur ce terrain-là, bah, ça a facilité aussi le fait de pouvoir choisir ce sujet-là, qui était un sujet qui n'avait jamais été traité, qui est un sujet d'histoire très contemporaine, puisque on va dire que mes sujets, entre guillemets, sont pour la plupart encore en vie, ce qui rend des fois le travail un peu compliqué, mais qui est au moins permet d'avoir une base d'archives et de sources orales très, très présentes et très, très actives.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le climat social en France est loin de se détendre en cette fin de semaine. Avant les arrêts de travail prévus la semaine prochaine avec le point culminant, la grève de la fonction publique, jeudi 20 octobre, ce sont les infirmières qui, regroupées au sein de leur coordination, en marge des syndicats donc, ont aujourd'hui dit non aux propositions d'augmentation moyenne de 8% faites par le gouvernement et reconduit leur grève. Françoise Joly.
Elles ont dit non aux propositions du ministre de la Santé, Claude Évin. Trois heures plus tard, à 16h30, l'Assemblée générale de la coordination des infirmières votait massivement la reconduction de la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Et si la revalorisation de leur salaire reste au centre du conflit, les infirmières insistent aujourd'hui pour qu'un véritable effort soit fait sur leurs conditions de travail, sur les effectifs et la reconnaissance de leur profession.
Ce que nous réclamons, nous, c'est un statut. C'est un statut, c'est le droit et la reconnaissance de nos compétences.
Ce qu'ont signé les syndicats cette nuit, à votre avis, c'est ridicule.
Je pense qu'ils ne sont pas allés suffisamment loin dans les négociations avec M. Évin.
Et pour vous, la lutte continue ?
Pour nous, je pense que la lutte continue à partir du moment où statut et formation ne sont toujours pas reconnus.
Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le mouvement des infirmières en 88 et leur slogan « ni bonne, ni conne, ni nonne ». Qu'on pourrait aujourd'hui transcrire par, ni précaire, ni mère, ni auxiliaire à propos de certains métiers dans l'éducation, par exemple, comme les AESH. Et sur le fait qu'il y ait une précarité qui est un peu essentialiste sur les métiers féminins et qui est souvent liée aux soins et à l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ?
Bah, en fait, ouais, c'est ça. C'est que dans tout le mouvement des coordinations infirmières des années 80, donc autour de l'année 87-88, il y a effectivement cette revendication ni bonne, ni nonne, ni conne, qui renvoie à la fois à l'aspect historique de ces métiers-là, qui sont très liés à la religion dans certains aspects, donc des nonnes qui vont s'occuper des personnes précaires, etc. Mais c'est aussi, ça renvoie aussi à la condition dans laquelle elles vivent et elles travaillent au quotidien, d'infériorisation par rapport à tout un tas de métiers occupée exclusivement, quasiment exclusivement par des hommes, et donc d'être un peu les faire-valoir des hommes et les petites mains, entre guillemets. Et donc il y a cette revendication de dire, voilà, on exerce un vrai métier qui a une utilité sociale, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur, notamment au niveau des salaires. Et ce combat-là, il va être très fort à ce moment-là. Ça va amener effectivement à des revalorisations de salaires, etc., mais qui restent en fait très très faibles par rapport à l'écart qui existe et qui existait et qui existe toujours aujourd'hui entre ces fonctions-là et des fonctions un peu supérieures. Et c'est un combat qui a débuté à ce moment-là et qui continue à la fois dans le secteur de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs, comme vous dites, dans le secteur de l'éducation, que je connais un petit peu, même si aujourd'hui je suis un peu éloigné, mais effectivement d'une conception qu'on a de ces travaux-là qui sont des travaux féminins dans la société patriarcale dans laquelle on vit, qui sont considérés comme étant inférieurs et donc qui doivent être nécessairement moins bien payés que des boulots à l'image masculine, des boulots de pouvoir, etc., qui font que voilà, on mériterait plus de salaire, etc., alors qu'en fait, celles essentiellement qui font tourner la boutique dans beaucoup, beaucoup de structures, ce sont des femmes et que leur métier est dévalorisé de fait parce que ce sont des métiers féminins. Et c'est un combat qui a commencé là et, comme je disais, qui a été très fort, qui a peut-être perdu un peu en intensité à une période et qui reprend, je trouve, aujourd'hui, notamment aussi tout ce qui est la question du nettoyage, etc., qui pour moi aujourd'hui une question hyper intéressante et avec un travail syndical extrêmement intéressant autour aussi de la sous-traitance, etc., et du coup de comment est-ce qu'on fait pour faire bloc et pour que le syndicalisme puisse se développer sur tout un secteur qui est aujourd'hui éclaté en termes d'entreprise et de donneurs d'ordre, etc. Mais voilà, c'est aussi effectivement toutes ces réflexions sur le travail en lui-même et le travail qu'on effectue pour changer l'image aussi du travail qu'on fait au quotidien, quoi.
Je trouve ça super intéressant de voir à quel point, à la construction des syndicats Sud ou de Solidaire, il y a cette question de mouvement dans des professions qui sont féminisées, ou de militantes syndicales. Hein, je pense que tu en parles pas mal dans le bouquin des militantes comme Annie Coupé, par exemple, qui partent... qui sont même exclus de la CFDT, qui sont à l'origine de la création des Suds. Pour nous, c'est vrai que dans Solidaire, c'est quelque chose en termes d'identité syndicale qui est très important, que voilà, nos origines, ce soit dans ces mobilisations de secteurs féminisés, de femmes militantes qui voilà, occupent des positions syndicales importantes de représentation. Comment va être prise en charge spécifiquement la question des femmes dans le syndicat, pour les secteurs que tu as étudiés, de Sudrail, Sud Santé Sociaux, Sud Éducation, en termes d'organisation, de revendication?
Eh ben, c'est hyper variable en fonction des syndicats et en fonction de la féminisation aussi, tant du syndicat et que du secteur professionnel. Ce que je remarque, moi, c'est qu'il n'y a pas forcément une prise en compte spécifique dès le départ. Il y a un peu une idée que les revendications globales touchent aussi les femmes, et de fait, c'est vrai, mais qu'au départ, on ne développe pas forcément de revendications spécifiques. Ça va plus venir avec le temps et avec le fait que on se rend compte que il faut des revendications non pas qui essentialiseraient les femmes en disant voilà, il faut des bonnes conditions pour les femmes, pour que les femmes puissent être mères plus facilement, pour que etc. Non, c'est juste une amélioration des conditions de travail qui sont spécifiquement destinées aux femmes, mais qui touchent aussi l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et donc aussi les hommes. Et après, il va y avoir un développement de revendications qui vont être fluctuantes en fonction des époques, en fonction des secteurs professionnels, mais qui vont amener justement à ça, à cette prise en compte globale de des femmes sont présentes dans notre secteur professionnel, donc il faut qu'on les en compte. On n'est pas c'est des secteurs professionnels uniformes avec les mêmes personnes et les mêmes problématiques pour tout le monde. Donc il y a des syndicats qui vont décider très tôt de mettre en place des commissions femmes à l'intérieur du syndicat pour pouvoir réfléchir et proposer à l'ensemble du syndicat des revendications. C'est le cas notamment à Sud PTT qui historiquement reprend un peu à son compte les commissions femmes qui pouvaient exister à la CFDT, qui était très très active à la CFDT. Dans la santé sociaux, c'est également ça voit également le jour assez rapidement, même si ça a été plus compliqué en fait dans ce syndicat là qui est extrêmement féminisé, parce que du fait de au départ l'omniprésence de femmes à la création du syndicat fait que elles n'ont pas en tête forcément de créer des outils spécifiques, mais en fait elles vont revenir là-dessus parce qu'elles vont se rendre compte que au départ le syndicat est petit, naît et balbutiant, et donc il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux de pouvoir à l'intérieur de syndicats, donc les femmes vont pouvoir avoir leur leur place assez facilement. Mais à partir du moment où le syndicat va commencer à avoir de la place et de l'importance, va commencer à être reconnu, là, il y a des hommes qui vont arriver pour insidieusement prendre un peu le pouvoir. Et donc là, ils vont être obligés de mettre en place des outils pour dire, voilà, c'est aussi notre outil syndical et vous ne pouvez pas le dominer aussi facilement que ça. À Sudrail, c'est encore une autre problématique parce que là, c'est un syndicat extrêmement majoritairement masculin avec une entreprise extrêmement, où c'est à l'époque extrêmement majoritairement masculine. Et donc, où ces questions-là sont un peu invisibilisées et il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aux camarades pour faire avancer les choses, même si ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté des camarades hommes, quoique, des fois, on peut douter, mais ça arrivera beaucoup, beaucoup plus tardivement. Ça fait que quelques années maintenant qu'il y a une commission femme au sein de la fédération Sudrail. Et donc, ça montre bien que même si on a les idées, même si sur le papier, on marque qu'on est pour l'égalité femmes-hommes, etc., dans le concret, c'est un peu plus compliqué, un peu plus lent et c'est pas toujours aussi simple, quoi.
Parmi les organisations syndicales qui manifesteront demain, le syndicat Sud, solidaire, unitaire, démocratique. Un syndicat qui a le vent en poupe dans le public et le privé. Depuis un an, les sections se multiplient. À l'origine de Sud, l'exclusion de responsables CFDT des PTT de la région Île-de-France. Jean-François Parmentier, Didier Lacharmoise.
La médiatisation et le capital sympathie autour de Sud remontent au mouvement de novembre-décembre 95. Traumatisme au sein de la CFDT, absence de gain réel pour la CGT et FO, l'ampleur du mouvement décidé par les seuls AG des salariés est plus proche de la philosophie de Sud-Poste. Véritable creuset de cette émergence syndicale, un pionnier mis en orbite au cours du conflit des camions jaunes de 1988, quand les premières coordinations se sont opposées aux confédérations.
Il y a des organisations syndicales, mais elles n'écoutent pas la base.
En dénonçant l'institutionnalisation des syndicats classiques, Sud privilégie les réseaux et apporte une assistance au niveau juridique ou de la formation. Un maillage interprofessionnel présent avec les organisations de chômeurs, de droit au logement, des sans-papiers ou de la lutte contre le racisme.
Le mouvement syndical dans son ensemble a besoin de se régénérer. Donc ça passe par des crises. Il y a eu l'éclatement de la FEN avec la création de la FSU. Il y a l'émergence du groupe des 10 avec l'émergence de Sud. Donc tout ça montre qu'à la fois il peut y avoir des crises, mais il y a aussi un peu des éléments de recomposition.
Au nom de ces trois mots, solidaire, unitaire et démocratique, tous les militants préparent la journée du 17 octobre. Un cap au Sud qui n'a pas fini de jeter un froid chez les syndicats voisins.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'année 95, en quoi elle a été fondamentale à la fois pour la création des syndicats Sud et pour les luttes des femmes plus généralement?
L'année 95, effectivement, en 95, on a déjà au moins deux syndicats Sud, donc c'est Sud PTT et Sud Santé Sociaux, pour parler des plus gros. Et le mouvement de grève contre les retraites de décembre 95 va amener la création, du coup l'explosion, entre guillemets, de syndicats Sud, donc que ce soit dans le rail ou dans l'éducation notamment. Et en fait, sur cette même année, on a en novembre 95 une grosse mobilisation pour la défense du droit à l'IVG. Une mobilisation, je pense qu'on n'en a pas connu depuis très très longtemps sur ces questions-là, où il y a à peu près 140 organisations qui se mobilisent, il y a 40 000 personnes qui manifestent à Paris. Et c'est aussi un moment où les syndicalistes qui vont créer les syndicats Sud, ou qui ont déjà créé les syndicats Sud, prennent toute leur place dans cette mobilisation, qui est à la fois une mobilisation féministe, donc d'association féministe plus traditionnelle, mais aussi de dire le syndicalisme aussi a sa place et a intérêt à défendre les droits des femmes et notamment le droit à l'accès à l'IVG. Et cette mobilisation va amener à la création du collectif national pour le droit des femmes, où là, il y a des militantes Sud, notamment de Sud PTT, qui vont prendre une place très importante, qui vont être à l'animation de cette structure pendant très nombreuses années, les syndicats vont mettre des moyens humains pour faire vivre ces collectifs. Et donc, effectivement, il y a un lien, alors qui n'est pas forcément un lien de causalité imbriqué, lié l'un à l'autre, très, très fort, mais qui marque une émulation, en tout cas, sur ces questions-là, des réflexions qui font que le mouvement féministe et le mouvement syndical de l'époque sont étroitement liés, et la création des syndicats Sud à ce moment-là est aussi étroitement liée à toutes ces mobilisations, quoi.
À la lecture de ton livre, il y a la question de la non-mixité qui apparaît notamment parce que les fondatrices et fondateurs des différents SUD sont souvent d'anciens et d'anciennes CFDT, et que la CFDT est l'ancienne CFTC, et que dans la CFTC du début 20e, il y a une non-mixité, mais qui n'est pas présente pour les mêmes raisons. Et c'est souvent un sujet assez crispant dans les syndicats, la non-mixité. Tu pourrais nous en parler un peu ou...
Ben ouais, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que moi je lis quand même si le fait que la CFTC, en gros, l'aspect chrétien faisait qu'on ne pouvait pas mélanger les hommes et les femmes parce que les hommes allaient, entre guillemets, salir ou la pureté des femmes, etc. Mais que quand même, au bout d'un moment, assez vite, ces syndicats féminins du début 20e mettent en place un espèce de proto-syndicalisme féministe qui est quand même extrêmement intéressant. Et c'est aussi parfois une source d'extrême tension quand on demande à des syndicats féminins à cette époque-là, de dire bon, bah voilà, maintenant vous allez rejoindre un syndicat avec des hommes, on va créer un syndicat mixte, etc. Et là, les femmes, elles vont être à la bagarre pour ne pas rejoindre ces syndicats-là et continuer à garder leur spécificité et leur possibilité de s'exprimer elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Après, quand on revient sur la période que moi j'ai étudiée, qui c'est des années 70, 80, 90, il y a effectivement une grosse tension par rapport à la non-mixité. Une non-mixité qui revient en force dans les années 70 avec le mouvement féministe. Et ce qui est assez drôle, enfin, ou pas, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une grosse bataille pour est-ce que les commissions femmes doivent être mixtes ou non-mixtes, etc. Qu'il y a sur les congrès de fondation, notamment des syndicats sud, c'est des batailles assez importantes pour que, enfin, des hommes se battent pour que les commissions femmes soient mixtes. Les camarades femmes disent elles-mêmes qu'au départ, elles ont un peu lutté là-dessus, puis que finalement, elles se sont dit bon, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, c'est de pouvoir créer des commissions femmes et de pouvoir avancer sur ces questions-là. Et donc, la plupart se sont créées en mixité, mais dans les faits, dans la pratique, elles étaient assez vite en non-mixité. Enfin, celle de Sud PTT, par exemple, pendant quelques mois, il y a un homme qui a participé, je pense, j'ai pas interviewé, mais qu'au bout d'un moment, il se sentait peut-être plus forcément à sa place, et qu'un espace d'expression où les femmes sont là pour discuter entre elles, un homme va assez vite, s'il est pas trop con, j'allais dire, mais va vite se sentir pas trop à sa place, et donc ça finit par être de fait non-mixte, et c'est toujours marrant, on voit ça dans le mouvement féministe, en général, même dans d'autres mouvements qui peuvent agir en non-mixité, c'est ce besoin, quand on se sent, entre guillemets, exclu de cet espace, de vouloir y aller, d'avoir le droit d'y aller. Une fois qu'on a le droit d'y aller, eh ben on n'y va pas. Et c'est quand même assez marrant que les hommes ont beaucoup, beaucoup d'espace pour s'exprimer sur les questions féministes, etc. Et que quand on utilise la non-mixité comme un outil, parce que c'est pas une fin en soi, hein, les camarades le disent bien, c'est pas une fin en soi, ils veulent pas créer des syndicats de femmes pour lutter que pour les femmes, etc. C'est juste un outil pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire avancer des revendications pour les femmes, des revendications féministes, etc. Et ben là, il y a un point de tension, et c'est toujours assez, j'allais dire drôle, mais c'est triste aussi des fois de voir que, en fait, ils peuvent intervenir sur plein de sujets, plein d'endroits, mais que l'endroit où on leur a interdit, ils veulent absolument y aller, alors que les endroits où ils peuvent aller, ils y vont pas forcément.
La non-mixité, c'était un des outils. Dans ton livre, tu parles aussi de la parité, il me semble, surtout à Sud PTT, où ça a eu des conséquences importantes sur l'organisation. Tu peux nous en parler rapidement ?
Ben ouais, en fait, dès le départ, les camarades, c'est assez marrant le cheminement des camarades, parce que quand on suit par exemple le parcours d'Annie Coupé, donc qui était militante à la CFDT à partir des années 70, il y a un congrès de la CFDT, si je ne dis pas de bêtises, à Metz en 82, où elles vont en fait s'opposer, on va dire l'opposition CFDT interne, la gauche syndicale comme on l'appelait à l'époque, va s'opposer à la notion de parité qui est mise en avant par un certain nombre de figures du syndicalisme de CFDT de l'époque, dont Nicole Nota, qui deviendra par la suite secrétaire générale de la CFDT. Et elle s'y oppose, en fait, frontalement. Et en fait, quand arrive la création de Sud PTT, moins de 10 ans plus tard, autour de 88-89, là, se repose la question, effectivement, de quotas, et de dire est-ce qu'il faudrait pas réserver des places dans les instances dirigeantes aux femmes. Et donc, elle décide d'y aller et de se battre pour ça. Et donc, elle finit par l'obtenir. et elles se rendent compte que bah oui, c'est tout à fait profitable et qu'elles réussissent à avoir une bonne représentation et que bah, pendant très longtemps, Sud PTT a eu une porte-parole femme, Annie Coupé. Ensuite, il y en a d'autres qui sont venus, il y a des hommes. Enfin, ça a tourné et c'était pas exclusivement des femmes ou ensuite exclusivement des hommes, mais que ça a permis en fait de faire tourner les choses et qu'on voit à l'inverse que ce que je disais tout à l'heure à Sud Santé Sociaux où là, il n'y a aucun outil qui a été mis en place au départ en se disant de toute façon, on est une majorité de femmes donc naturellement, ça va s'équilibrer et ça va être. Et ben en fait, on se rend compte que non. Il faut se donner un cadre, sinon ça marche pas. Moi, j'ai l'exemple du syndicat Sud Santé Sociaux de mon département qui existe lui depuis 95 et depuis 95, ça a toujours été un homme au poste de secrétaire départemental alors qu'on est sur un taux de féminisation du secteur et un taux de féminisation du syndicat qui est au-delà de 80%. Donc ça questionne sur le fait que bah voilà, si on met pas en place d'outils, malheureusement, naturellement ça n'existe pas. Il y a des rapports sociaux qui font que les hommes vont accéder plus facilement à ces lieux de pouvoir et à ces positions de pouvoir que des femmes et que malheureusement, il faut, comme outil, encore une fois, en passer par là pour atteindre plus d'égalité.
Merci Guillermo. Et puis, si ça vous a intéressé, vraiment, n'hésitez pas à lire le livre Les Brebis Noires, qui est passionnant. Merci Guillermo.
Si vous voulez chez vous approfondir les sujets abordés dans ce podcast, on est allé à la rencontre d'une libraire engagée pour qu'elle nous donne quelques conseils de lecture. Je retrouve Mélanie sur la route de son travail. Nous traversons le bois, donc une très belle route pour aller au travail. Mélanie, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Mélanie, je suis libraire à Paris dans le 12e arrondissement, dans une librairie qui s'appelle À tout livre. Et donc moi, je m'occupe du rayon sciences humaines depuis un petit moment maintenant. Et une de mes grandes fiertés professionnellement, c'est d'avoir créé dans ce rayon sciences humaines un rayon écologie, mais aussi un rayon questions féministes qui fonctionne vraiment bien depuis quelques temps maintenant.
Bah justement, on voulait te parler de féminisme du 8 mars. Et est-ce que tu pourrais nous faire quelques recommandations lecture, soit sur des problématiques liées aux droits des femmes, soit sur le 8 mars, soit sur un sujet qui s'y rapporte, qu'est-ce que tu peux nous conseiller ?
Eh ben, le premier livre qui me vient à l'esprit et qui est vraiment sur le 8 mars, c'est un chouette bouquin qui vient de sortir aux éditions Hors d'atteinte, qui s'appelle « Je veux me battre partout où il y a de la vie ». Cette citation, elle vient de Clara Zetkin, et ce livre donc présente cette grande féministe qu'on ne connaît pas trop en France et qui est pourtant à l'origine de la journée du 8 mars. Elle est née en Allemagne au milieu du 19e siècle, elle s'est exilée en France quelques années après la Commune, elle a croisé Louise Michel, elle a croisé Laura Marx, qui était en train de travailler sur les écrits de son père avec son mari Paul Lafargue. Surtout, elle a participé au congrès fondateur de la Deuxième Internationale, dans laquelle elle fait une prise de parole très remarquée. C'est le moment où les socialistes se posent la question de savoir si cette histoire de travail des femmes, ce serait pas une espèce de vaste machination capitaliste qui vise à faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Et elle prend la parole pour dire pas du tout, enfin peut-être en tout cas ce qui est important c'est qu'il n'y a pas d'autonomie possible sans indépendance financière et donc c'est très important que les femmes aient accès au travail et elle va passer toute sa vie à défendre le droit des travailleuses principalement. Elle retourne en Allemagne, elle va devenir très proche de Rosa Luxemburg et donc c'est elle qui va proposer cette journée internationale de manifestation et de revendication autour du droit des femmes. Donc ça, c'est le premier bouquin auquel je penserais si on me demandait quelque chose sur le 8 mars, puisque c'est vraiment,
vraiment
l'origine.
On a envie d'aller l'acheter tout de suite en librairie. Moi, je sais que je vais faire ça, déjà.
Eh bien, n'hésitez pas, mais oui, mais oui. Le deuxième truc auquel je voudrais penser autour du 8 mars, c'est une revue. Je la prends pour la montrer, mais on a la radio, ça ne sert à rien, pardon. Ça s'appelle La Déferlante. C'est une revue qui est créée et dirigée par quatre femmes. Je les cite vite. Marie Barbier, Lucie Geoffroy, Emmanuelle Jess et Marion Pilas. Donc, le tout premier numéro sort là en mars 2021. Le projet de cette revue, c'est vraiment de faire un lieu de rencontre entre les idées féministes, de parler de tous les courants, essayer de donner à comprendre et à réfléchir sur tous les débats qui agitent aujourd'hui les féministes. Faire dialoguer des chercheuses, des activistes, des journalistes, des intellectuels. Dans ce premier numéro, il y a une rencontre croisée hyper intéressante entre Annie Ernaux et Céline Sciamma. Vraiment, moi, je vous la recommande. Il y a un gros dossier qui s'appelle Naître, qui est le premier dossier d'une longue série autour de la théorie du genre. Ce sera à chaque fois sur un infinitif, et donc on commence par Naître, puisque c'est là que tout commence. Voilà, il y a de la BD, il y a de la photo, il y a des chroniques, des enquêtes, c'est très très complet. C'est 19€, c'est tous les 3 mois. Et ça s'appelle donc La Déferlante. J'enchaîne avec un coup de cœur très personnel pour le coup. C'est un petit livre en poche qui s'appelle 19 femmes, écrit par Samar Yazbek. Samar Yazbek, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, il faut absolument la connaître. Samar Yazbek, c'est une militante syrienne qui a fait des études de lettres. Elle a vraiment l'amour de la langue, de la littérature en elle. Elle a écrit des romans pour commencer. Et puis quand la révolution éclate en Syrie, elle a commencé à documenter ce qu'elle voyait, c'est-à-dire les violences terribles commises par le gouvernement à l'encontre des manifestants. Pour ça, elle est persécutée, poursuivie, elle a fini par s'exiler en France. Elle a continué à écrire sur la révolution syrienne au péril de sa vie, puisqu'elle est retournée incognito plusieurs fois. C'est un livre magnifique qui s'appelle « Les portes du néant », dans lequel elle raconte ça. Et là, dans 19 femmes, le sous-titre c'est « Les Syriennes racontent ». Elle nous donne le témoignage donc, de 19 femmes qu'elle a elle-même réécrites. Elle leur a soumise ensuite pour approbation, hein, mais elle a rencontré une cinquantaine de Syriennes qui sont exilées aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe. Elle leur a demandé de lui raconter son histoire. Son idée à elle, c'est d'essayer de retracer l'itinéraire de ces femmes qui ont toutes pris une part active à la Révolution, qui ont toutes été obligées de s'exiler à un moment ou à un autre, mais qui n'ont pas le même parcours, qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas les mêmes raisons d'entrer en révolution, qui n'ont pas eu les mêmes mésaventures, si on peut dire. Enfin, il y en a certaines qui ont été torturées, il y en a d'autres qui ont réussi à s'enfuir sans passer par cette case-là. Au-delà du fait, donc le premier but de ce livre, c'est de faire un vrai travail de mémoire pour essayer de contrer le récit qui est imposé aujourd'hui par Bachar al-Assad sur le fait que c'est des terroristes qu'il est en train d'exterminer. Elle veut aussi vraiment donner à entendre les voix de ces femmes qui se sont soulevées contre un régime oppresseur pour lutter avec des camarades, hommes aussi, pour plus de droits, et qui ont souvent, tout le temps en fait, à chacun des témoignages, il y a un moment où il a fallu qu'elles luttent contre leur propre camp, parce que c'est des femmes qui accèdent à l'autonomie, elles dérangent. Et donc c'est ce double drame-là que Samar Yazbek s'est très très bien porté, et encore une fois c'est très bien écrit, c'est extrêmement difficile à lire, mais c'est 19 témoignages, donc on en lit un une fois et après on va voir autre chose, et c'est quand même vraiment essentiel, je pense. On ne parle pas beaucoup de la Syrie en Occident, alors qu'il se passe encore là-bas des choses terribles.
Tu as encore une recommandation?
Je voulais juste glisser, qu'elle a créé en 2012 une ONG qui s'appelle Women Now for Development, qui est basée à Paris, mais dont le but, c'est vraiment de créer des centres d'éducation à destination des femmes et des enfants dans tous les pays en guerre. En Syrie, il n'y en a plus parce qu'ils ont été bombardés systématiquement jusqu'à ce que tout s'arrête. Mais voilà, c'est quand même... Donc c'est Women Now for Development. Très beau projet. Voilà, et mon dernier coup de cœur, il est magnifique, il est joyeux, il est fantastique, ça s'appelle L'Art de la Joie.
Ah, mais oui!
C'est un des plus beaux romans que j'ai jamais lu, n'est-ce pas?
C'est le plus beau roman.
Mais oui, il est sorti à la fin des années 90, quelques années après la mort de son autrice Goliarda Sapienza, qui avait l'air d'être vraiment une grande figure. Enfin, déjà, juste l'autrice est incroyable, italienne. C'est traduit donc de l'italien par Nathalie Castagnier, et c'est aux éditions du Tripode. C'est un énorme bouquin qui fait 600 pages. Moi, à chaque fois que je le sors dans la librairie, que je le montre aux clients, il y a toujours un petit moment de recul.
Et pourtant, une fois qu'on est dedans,
exactement.
On ne peut pas du tout en sortir.
Bah, c'est ça, c'est fantastique. C'est l'histoire de Modesta, qui naît le 1er janvier 1900 dans un village extrêmement pauvre, dans une famille très pauvre en Italie, et qui va traverser le XXe siècle italien. Donc on va la suivre pendant toute sa vie, c'est le prétexte pour Goliarda Sapienza pour parler d'absolument... toutes les problématiques que peut rencontrer une femme dans sa vie. Il y a la question de l'église parce qu'elle rentre au couvent, il y a la question du viol, il y a la question des multiples relations amoureuses qu'aura Modesta. Et surtout, il y a aussi la découverte de la politique, l'engagement dans la résistance, mais c'est compliqué quand on est une femme. Et la découverte de l'éducation aussi qui arrive assez tard, la réflexion sur son parcours. Ensuite, c'est vraiment... Moi, c'est un des livres qui m'a accompagnée énormément, qu'on continue à vendre à la librairie. Il est encore sur la table alors que... Donc, il est sorti dans les années 90. On continue à le conseiller vraiment à tour de bras. On a très, très peu de mécontents.
Non, je pense que c'est pas possible.
C'est fantastique. Puis
la question sur l'éducation des enfants aussi, le rapport à la maternité, le lien biologique, le lien pas biologique.
Complètement.
Ça me fait très plaisir que tu parles de ce livre.
Et bah cool,
j'ai dans mon sac à dos les carnets de Goliarda Sapienza que je suis en train de lire en ce moment, qui sont tout aussi merveilleux sur la suite de l'écriture de L'Art de la Joie, mais C'est super que tu en parles et que tu le présentes comme un coup de cœur, parce qu'il faut le lire, vraiment, il faut le lire. Voilà.
C'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand vous m'avez demandé des livres autour du 8 mars, c'est vraiment... Enfin, ouais, il faut le lire, je suis d'accord.
Bah écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question, qui du coup s'éloigne un tout petit peu de la littérature, mais voilà, est-ce que tu te considères comme une libraire engagée? Qu'est-ce que ça recoupe pour toi en fait dans ta pratique professionnelle?
Eh ben, c'est une question qui est vraiment intéressante et qui est un petit peu compliquée parce que moi je suis dans une librairie militante. Pardon. Moi je suis dans une librairie généraliste. C'est-à-dire qu'il y a des libraires qui peuvent plus facilement dire moi je suis engagée parce que je suis dans une librairie militante, donc une librairie qui va choisir d'avoir exclusivement des livres qui sont plutôt militants et qui donc va choisir de ne pas avoir des livres qui se vendent beaucoup mais qui représentent un discours assez dégueulasse, hein, on peut le dire, comme le Zemmour, comme le Darmanin, comme ce genre de trucs qui se vendent très très bien. Et moi qui
ça
suis en sciences humaines, oui, bah
c'est
oui,
terrifiant.
C'est terrifiant. Et donc moi qui suis en sciences humaines, c'est une question que je me pose très régulièrement. Par exemple, la dernière revue de Michel Onfray, Front Populaire, qui est absolument, enfin bon, moi ça me terrifie. Ça se vend très bien et c'est dans mon rayon. Mais moi, je considère que, j'arrive quand même à me considérer comme quelqu'un d'engagé, justement parce que j'essaye dans ce rayon-là, où la vocation est d'accueillir tous les clients. Donc ça, c'est cette décision-là d'être dans une librairie généraliste, c'est les patrons qui la prennent. C'est les patrons qui disent si on aura Éric Zemmour, si on va avoir Darmanin, on fait pas l'impasse sur ces choses-là, avec l'argument de dire il faut que tout le monde puisse entrer dans la librairie et trouver les livres dont on parle dans les médias. Après, la question, c'est où est-ce qu'on met ces livres dans la librairie? Est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'on les met pas en avant? Comment est-ce qu'on accueille les gens qui viennent? Moi, j'essaye d'être, en étant polie, de garder une espèce d'ouverture vers « oui, vous savez, il y a d'autres façons de penser, il y a regarder cet autre livre que je pose à côté du livre d'Éric Zemmour, par exemple. » Voilà, c'est comme ça que je conçois. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la création de rayons sur lesquels il y a des...
De rayons engagés?
Des rayons engagés, oui. Quand je suis arrivée dans la librairie, il n'y avait pas de rayon question féministe, il n'y avait pas de rayon écologie. Quand je posais la question, on m'a dit « bah oui, pourquoi pas, vas-y, essaye ». C'était une toute petite étagère au début, qui devait y avoir, 20 livres, un truc comme ça. Et puis, c'est aussi l'évolution de la société et l'évolution des parutions éditoriales qui ont accompagné mon travail à moi. Mais quand même, vraiment, maintenant, je suis contente de voir qu'il y a des gens qui viennent et qui prennent le temps de regarder tous les livres qui sont présentés dans ce rayon-là. Le rayon a beaucoup grandi. On fait des rencontres autour, c'est ça aussi, oui. Un des trucs importants aussi pour inscrire notre engagement dans notre métier, c'est choisir qui est-ce qu'on invite. Par exemple, Samaria Asbeck, dont je parlais tout à l'heure, elle est venue à la librairie, c'est une grande, grande fierté pour moi. Ouais. D'autres autrices, on avait fait une rencontre avec Amandine Day et Aude Vidal autour de la question de la sexualité, de la question aussi des mouvements féministes, de comment est-ce qu'on discute entre féministes.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était vraiment passionnant et c'était très agréable de faire cette interview dans le cadre où nous sommes, donc au bois de Vincennes, au milieu des oiseaux, donc merci pour ce très intéressant entretien.
Et ben c'était un grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc lisez, syndiquez-vous.
Oui. Vous avez écouté le numéro spécial de LBD consacré au 8 mars. Et d'ici la prochaine fois...